quand même attendre le retour de Jérôme Nica, qui est gentillesse de partir en mission. Donc tu dois jouer le rôle de Nicolas Becker.
Très bien.
Ferme carrément la porte.
Oui, carrément, ça, oui. C'était vu.
Je t'ai croisé justement à ça.
Absolument.
Alors je vois que quelqu'un a fermé la porte, c'est très bien. Donc ça va être l'occasion, ça va être le feu vert pour nous de redémarrer la table ronde. De démarrer, pardon, la table ronde. Et donc après la comédie musicale, les chaises musicales, les intervenants de cette table ronde ne sont pas ceux qui ont été annoncés, ou en partie. Donc il y a bien Barbara Turquet avec moi, il y a bien Cyril Holtz, mais Nicolas Becker a disparu pour des contraintes de temps, il est impliqué sur beaucoup, beaucoup de projets, donc assez peu disponible, et on le remercie énormément de sa présence quand même. Nils, du coup, qui est resté avec nous, et Antoine Martin, qui s'est joint à nous pour la discussion. Alors, je vais peut-être lancer les premières questions. Alors, moi, j'en avais eu en tant que chercheur. Je dois dire, je sais très bien comment dire les démarches et les points d'intérêt pour les artistes sur la joie d'explorer l'inconnu et en particulier les défauts, ce qui marche pas bien, moins bien, etc. Mais c'est frustrant pour un chercheur, parce que nous, en tant que chercheurs, on fait pas de la recherche pour produire des choses qui fonctionnent mal. on essaye de faire des choses, y compris pour l'innovation technologique, on essaye de faire des choses qui fonctionnent le mieux possible dans une tâche donnée. Comment on peut concilier ça avec vos besoins? Est-ce que c'est, comment dire, c'est une malédiction irrémédiable? Nous, on fera les meilleurs produits, puis les artistes viendront pour les casser. Qui vous voulez?
Non, mais c'est un peu, c'est un peu extrême. Nous aussi, on aime bien. On aime bien quand les choses marchent bien. Non, mais c'est vrai que je me souviens, on avait eu une conversation toi et moi à une époque, et tu m'avais dit, oui, on est dans un temps de recherche. Et je pense que le temps, c'est vraiment ça qui est le plus disparate selon les. Selon les domaines et le temps de la recherche, évidemment, par exemple, quand nous on travaille sur un film, et certainement pas le temps de production d'un film. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien de trouver des occasions de réunir différents secteurs pour faire des choses concrètes. C'est-à-dire que le problème, quand on a des projets, c'est que ça ne s'articule jamais, c'est souvent, je suis désolé, mais des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, ça serait bien de faire ça. Mais oui, mais pour quoi faire, pour qui, etc. Et de trouver des pierres brutes, en fait, à tailler ensemble, ça, c'est bien. C'est-à-dire, à l'occasion de tels projets, mais concrets, comme vous le faites ici, comme un cas pratique ou un cas d'école sur lequel on va concentrer nos efforts communs pour trouver des outils ou des méthodes.
Et alors, je rebondis, je reprends une question que j'ai posée en off tout à l'heure, c'est les ICC, industrie culturelle et créative, ou créative et culturelle, je ne sais jamais l'ordre des C, il y a le I, il y a le C, et j'ai l'impression que c'est presque irréconciliable, parce que dans l'industrie, il y a cette logique de productivité, d'automatisation, de réduction des coûts, etc., et l'artiste ou les créateurs, eux, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Pardon. Tu l'as mentionné dans ta présentation. Ce matin, Jérôme Nica l'a mentionné également, de manière différente, avec une expérience différente. Et justement, il y a des histoires de temps aussi, mais le temps d'une production au cinéma, il est assez contraint quand même aussi.
Oui, absolument. Et donc, on est obligé de le respecter et même. Le grand artiste de tout ça, par exemple le réalisateur, il a des contraintes de temps comme tout le monde et on compose avec. Et on observe quand même une tendance selon laquelle on a de, c'est pas qu'on a de moins en moins de temps, mais on a toujours le même temps pour faire encore plus de choses et pour donner naissance à des projets de plus en plus ambitieux à tous les niveaux. Donc oui, c'est une contrainte qu'on a, et encore une fois, c'est une espèce de tension. C'est vraiment le point d'achoppement entre le temps dont on dispose et ce qu'on veut produire.
Alors, je rappelle au public, parce que du coup, on a commencé, vous avez posé des questions pendant la présentation de Thiel. Si vous en avez, levez la main, n'hésitez pas. Voilà. Et on viendra vous donner un petit micro.
Oui, Antoine. J'ai une question pour Cyril. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu aimes prendre le temps de faire des choses laborieuses, mais en même temps, moi j'ai l'impression que l'IA comme assistant sur des tâches laborieuses permettra de dégager du temps, et on l'a vu sur des outils non IA, mais le refasage perche à chef automatique qu'on a depuis une quinzaine d'années nous a permis de gagner beaucoup de temps sur quelque chose de très rébarbatif qui auparavant prenait une semaine à la personne en charge du montage des directs, et donc maintenant ça nous permet de passer plus de temps à faire des sélections de choix de prise et des choses comme ça. Donc c'est un exemple de, on pourrait dire, d'optimisation de processus qui nous a permis de gagner du temps, mais en même temps d'en dégager pour faire d'autres choses. Et donc je reviens sur ton utilisation par exemple de Boomit. Tu m'as dit que tu avais passé plusieurs jours à automatiser toi-même laborieusement les mouvements de la tête pour coller à l'image. Est-ce que tu n'aurais pas aimé automatiser cette tâche très laborieuse pour passer plus de temps à faire des réglages de couleurs ou autre?
Si, mais est-ce que ce que j'aime, est-ce bien? Enfin, c'est toujours la question que je me pose. Il y a, évidemment, tu parlais d'IA fainéante. On est tous fainéants. Hein. Enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose qui nous facilite la tâche, on aura toujours tendance à faire le moins d'efforts possible. C'est humain, et le cerveau est fait comme ça d'ailleurs. Mais le plus dur, c'est d'arriver à faire la sélection. Quand tu me parles de ce plugin AutoAlign qui permet de refaser perche à chef en chaîne, je trouve ça très bien, et je serais le dernier à dire que j'aimerais revenir à avant. Et en revanche, si tu me disais y a un plug qui va tout équaliser pour toi automatiquement, je dirais non, parce que tu parlais vraiment de façonner le son tout à l'heure, et c'est exactement ça, et ça rentre dans ce système de façonnage. Et donc c'est peut-être ça qui est dur, c'est d'arbitrer quelles tâches répétitives sont de toute façon ne produisent pas un résultat qui peut avoir une influence qui va varier selon les intervenants. Et ce, au contraire, parce que tu mets un equalizer dans les mains d'un tel ou d'un tel, ça va être différent de toute façon. Alors que...
Oui, mais si l'IA, elle est capable de faire ce que tu as envie d'entendre.
Mais elle ne pourra jamais. J'espère. À moins qu'elle soit...
Pardon, un peu là-dessus, puisque j'ai échangé un petit peu avec les directeurs du département son à l'école. Ils m'ont expliqué que certains outils dans les logiciels, notamment de nettoyage des bandes son, qui avaient été introduits dans les machines pour les étudiants, et ils les ont retirés justement pour enlever une part d'automaticité et, d'un point de vue pédagogique, commencer par tout un travail de réglage qui, en fait, si on utilisait tout de suite ces outils, ferait perdre aux étudiants des apprentissages très précieux, en fait.
C'est vrai que ces deux dernières années, on a vu des outils sortir beaucoup plus simples, où vraiment on a juste à dire, on veut moins de bruit, et ça fonctionne tout de suite. Et c'est vrai qu'on perd vraiment un peu ne serait-ce que la compréhension de ce qui se passe derrière, même aussi, de savoir un peu comment, quand on affecte un signal, qu'est-ce qu'on a envie d'enlever, qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on veut le corriger, quoi, en fait. Là, ça fait le travail pour nous, et des fois pas forcément la meilleure des manières.
Je peux même rebondir là-dessus moi-même, parce qu'il y a une intervention à la FEMIS qui était avec Nicolas Becker. Les étudiants posaient, c'est quoi les outils IA qu'il faut suivre, machin, etc., pour débruiter, etc. Et ils disaient, en fait, si tu fais bien ta prise de son au départ, tu n'auras pas besoin de débruiter quoi que ce soit. Voilà, donc aussi sur ces aspects-là. est-ce que, un, dans vos pratiques au quotidien, il y a des outils qui existent à base d'IA qui sont devenus maintenant un usage quotidien pour vous, etc. Ou ça, comme tu disais, en fait, ça dépend. C'est pas une question que tu te poses et que c'est en fonction des besoins.
Non, mais clairement, ces solutions qu'évoquait Barbara tout à l'heure, ces outils qui permettent de de nettoyer, entre guillemets, des dialogues, parce que c'est ça le hic, c'est qu'ils ne sont capables, comme ils sont basés sur la reconnaissance de dialogue, ils vont isoler le bruit quand le distinguant du dialogue. Mais si on veut enlever du bruit, par exemple, sur un son qui ne contient pas de dialogue, il va tout simplement, purement et simplement, tout enlever. Donc, c'est toujours la même chose, c'est le bon outil pour la bonne tâche. Mais ces outils-là, il y en a beaucoup maintenant qui permettent de dénoiser. Il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on l'utilise très régulièrement, tout simplement parce que ce pouvoir de discrimination entre le dialogue et le reste est quand même redoutablement efficace et surtout moins invasif. Donc, on obtient un résultat plus naturel que ce qu'on obtenait avant avec même plusieurs outils cumulés. Mais c'est toujours la même chose, tout est une question de dosage et souvent c'est une combinaison d'outils ou ces outils à base d'IA participent. Mais c'est toujours la même chose, si on enlève 20 dB de bruit juste avec cet outil, ça reste dégueulasse. Enfin, je veux dire, on entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ça sonne un peu plastique.
Il y a les outils d'accentize, de reproduction de reverb. En fait, ils arrivent à analyser. On a besoin d'à peu près 8 secondes de signal et en fait, tu peux avoir la reverb après générée et l'utiliser sur n'importe quoi. C'est assez pratique pour en gros, moi je faisais un peu ça avant, mais de manière manuelle. Voilà, maintenant c'est automatisé et c'est plus fidèle. Ils font aussi un autre outil qui permet de nettoyer, mais avec de la synthèse vocale, qui fonctionne pas toujours très bien. C'est vraiment un peu aléatoire. C'est comme les outils de nettoyage en fait. Vraiment, ça ne fonctionne pas à tous les coups, quoi. Et après, moi j'ai un peu plus de mal avec. Enfin, en gros, c'est pas forcément des outils que j'utilise moi-même, mais. J'ai un peu de mal éthiquement à trouver ça correct d'utiliser des outils génératifs en fait comme je sais qu'il y a un site qui est vraiment très utilisé par certains monteurs son qui s'appelle Eleven Labs et
qui n'a pas une réputation excellente.
Mais en tout cas il est vraiment simple à utiliser, donc ça après c'est pour ça que c'est vraiment
beaucoup utilisé. Justement, entre les logiciels ou les outils développés par des compagnies qui ont pignon sur rue ou une expertise, je sais pas, Pro Tools, Isotope, etc., donc qui sont là, qui ont une expérience depuis plusieurs décennies ou plusieurs années, plusieurs décennies, et la multiplication en fait des startups, entreprises, outils en ligne, pas en ligne, etc., qui explosent. Vous suivez un petit peu tout ce qui se passe, vous faites plus confiance à ceux qui sont là depuis longtemps, peu importe.
Moi, j'essaie de faire un état de l'art un peu régulier des technologies, notamment de texte to sound, tu vois, to sound effect. Par exemple, Eleven Labs, tu peux taper ambiance de forêt, vent dans les pins. Et en fait, généralement, sur tout ce type d'outils-là, on n'arrive pas du tout aux qualités cinéma ou aux qualités de son qu'on a envie d'avoir dans une session comme celle que Cyril et Nils ont présentée, parce que les datasets qui ont servi à entraîner ces modèles, ça vient de YouTube, ça va être des sons qui sont de qualité MP3, ça va être du stéréo, alors que nous, on a l'habitude d'utiliser plutôt des prises de son qui vont être multicanales, quadri, 5.1, etc. Donc en fait, on n'y est pas du tout encore en termes de résultats et de qualité. Par contre, en termes de est-ce que le son qui est généré ressemble effectivement à de la forêt et du vent dans les pins, oui, mais par contre, ce n'est pas un son qu'on pourrait utiliser tel quel dans une session de film.
Ouais, et ça, c'est un gros problème pour tous les algorithmes qui touchent à l'apprentissage, c'est les données, et pas forcément la quantité, mais c'est aussi la qualité de ces données et éventuellement leur diversité. Et en particulier, moi j'avais pondé quelques exemples, les attentes en termes de qualité de rendu au cinéma, dans la musique, etc., sont incomparables à des besoins standards. Si on a un bruit de son dans la forêt, machin, si on a un niveau d'acceptation bas, ça marche. Assez rapidement, c'est plus utilisable. Peut-être, alors je voulais toucher un mot, je profitais, alors, toujours dans la salle, lever la main. Ah voilà, merci, c'est mon poseur de questions pilote.
poseur de questions pilote carrément. Oui, non, je voulais déjà remercier l'équipe de la présentation précédente, Cyril Holtz, et j'ai oublié le nom de Monsieur Niels. Et en particulier sur, pour le propos sur l'artisanat technologique et justement ce que vous disiez sur le terme geekery que j'avais un peu impropre, que j'avais utilisé dans la table ronde précédente, c'était justement exactement ce que vous disiez, à savoir ce qui va à rebours de cette automatisation, les technologies qui vont à rebours de cette automatisation. Et du coup, en plus, voyant le titre de votre table ronde, nouvelle pratique, nouvelle esthétique, donc il y a toute la question des outils, des processus automatisés qui font gagner du temps, mais on rêverait de quoi par chez vous en termes de nouvelles pratiques, nouvelles esthétiques, nouvelles pratiques qui permettraient peut-être même, au lieu de passer 3 heures sur un plugin, d'en passer 9, d'en passer 12 peut-être, mais pour expérimenter des choses autres.
Non, mais ça serait mentir quand même de dire qu'on voudrait, notamment à cause des contraintes de temps qu'on a et qui sont de plus en plus fortes. En fait, le cinéma, c'est certainement pas le bon endroit, comme dans beaucoup de domaines, pour augmenter malheureusement les temps passés sur l'expérience, etc. Mais moi, je sais que par exemple, pour et là, pour le coup, c'est vraiment de la geekerie. Je passe beaucoup de temps chez moi à comparer des outils, à écouter, à faire des tests à l'aveugle, à faire des et ça me renseigne beaucoup et ça me permet surtout de comprendre les outils dont je me sers tous les jours. Ou dont je vais me servir, pour parfois revenir à des outils qui sont restés toujours les mêmes depuis que j'ai commencé à travailler, ou au contraire, d'autres qui évoluent de plus en plus. C'est toujours la même chose, il faut que l'outil serve son utilisateur, moi, et jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. On peut très facilement comparer ça aux outils d'un artisan, justement, qui l'outil se fait à l'artisan, à sa main, aussi bien que le constructeur a fabriqué l'outil. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est cette adaptation qui compte, cette adaptation. Et après, ben, la contrainte de temps, c'est une contrainte pour une bonne raison, c'est qu'il faut qu'elle serve aussi sur le temps. C'est vrai que si on cherchait à enfoncer un clou avec un doigt, peut-être qu'on y arriverait au bout de quelques décennies, mais quand même un marteau permet de diminuer ce temps. C'est le bon dosage, c'est comme toujours, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut trouver il faut trouver la nuance là-dedans, je pense.
Je bascule sur une toute autre question. Al, tu as mentionné, donc, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est une entreprise, c'est un collectif, etc. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ?
Carrément, je peux parler de la naissance de Al très rapidement, qui est une société créée il y a quasiment 20 ans, du coup, par Cyril et d'autres associés, qui étaient à l'origine quelques-uns, 4 ou 5, c'est ça ? Et dont Nicolas Becker, etc. Et en fait, on a créé, sous l'impulsion du coup de Cyril et d'autres, la marque Al, qui est une marque de plugins audio et de banque de son, il y a 3 ans. Et Boomit, en fait, c'est notre premier plugin commercial qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et du coup, l'idée de cette marque de plugin, qui aujourd'hui appartient à la société Polisson, qui est un studio de post-production basé dans le 20e arrondissement, l'idée derrière, c'est que c'est les utilisateurs et utilisatrices, dont Cyril, Niels, etc., qui sont des utilisateurs massifs des outils et des plugins, qui ont les idées en fait, de ce qui leur manque, ce qui manque à leur arsenal, qui viennent ensuite me voir, et moi je fais l'interface entre les idées et l'équipe de développement en dessous qui vont du coup pouvoir développer les outils comme Boomit.
Oui, c'est exactement ça. C'est que, évidemment, souvent, on avait parlé des idées qu'on avait à des développeurs de plugins ou même certaines fois des industriels, ou même on en a parlé ici à l'IRCAM, mais on s'est rendu compte que, évidemment, chacun n'avait pas les mêmes contraintes, à la fois que ce soit des contraintes financières, des contraintes commerciales. Et des contraintes aussi de choix, de stratégie, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui m'intéresse de développer. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, en fait, la seule solution pour nous, pour faire des outils adaptés à nos utilisations et en cinéma, et par exemple qui ne sont pas juste des outils détournés qui ont été faits pour la musique au départ, bah, c'est de les créer nous-mêmes. Et donc, alors, à notre mesure, c'est très humble, surtout au départ, on a essayé de s'affranchir de toutes ces contraintes et d'essayer de créer nos outils en fonction de ce qu'on avait envie de voir.
Alors, vous les faites pour vous-même à la base, vous arrivez à les étendre largement à d'autres utilisateurs?
Oui, parce qu'il y a plein de gens comme nous, en fait, dans la post-prod cinéma, et c'est des la seule différence, c'est que nous, on a décidé de se doter d'une organisation et d'un cadre qui permet de les fabriquer, ces outils. Mais évidemment, des gens qui font le même métier que nous, pour certains d'entre eux, en tout cas, voient tout à fait l'intérêt de ces outils.
Ouais, tout à fait. Moi, dans mon idée, il y a une espèce de bascule de granularité entre des outils qui soient spécifiques aux besoins de chaque individu à l'extrême, et à l'autre extrême, des outils qui soient tellement généraux qu'ils puissent être utilisés par tout le monde, mais qui ne répondent plus à de besoins spécifiques. Il faut arriver à placer le curseur quelque part entre les deux.
Ouais, comme dans tout, comme dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps et sur l'expérience. Il y a un moment donné, et c'est comme ça quand on mixe un film, où on sait, quand on a passé une après-midi sur 2 minutes de film, on se dit, j'ai pas tout essayé, mais là, il faut y aller. c'est toujours savoir où il faut s'arrêter, quoi.
J'en reviens sur la formation, peut-être. Les futurs créateurs de demain qui sont à la FEMIS, du coup, eux, quelles actions de la formation sur ces outils-là vous réalisez à la FEMIS, depuis quand d'ailleurs?
Alors, peut-être que mes collègues auront même plus d'informations que moi, parce que je pense que vous intervenez aussi à la FEMIS, plus ou moins tous, donc je ne suis pas forcément au courant de tous les éléments de la formation des étudiants en son.
Ou plus généralement, pas que...
À quoi je suis assez sensible, c'est effectivement ce modèle un peu d'outils créés et sous-tendus par les besoins des créateurs. Enfin, je pense que la FEMIS, toute la pédagogie est quand même fondée là-dessus, c'est-à-dire une pédagogie portée par le projet, notamment le projet de film et le projet des films des étudiants, où chacun travaille de concert. Donc, et puis en termes de recherche, c'est vrai qu'on est aussi attentif à des outils qui sont spécifiquement pensés pour le cinéma, de fiction, en salle. Enfin, c'est quand même le cœur de la FEMIS. Donc donc je pense qu'il y a des choses à imaginer, et parfois je peux être sollicitée pour participer à des projets de recherche sur des choses qui sont plus larges que le cinéma, les ICC, etc. Mais nous, finalement, nos usages, ils sont mine de rien assez spécifiques, donc il y a quand même cet enjeu-là. Et après, sur à quels outils ils sont initiés quand, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner. Je sais juste qu'il y a cette question de la progression dans la formation, et qu'effectivement, il y a des outils qu'on va introduire au début, et puis il y a des outils qui vont peut-être donner lieu à quelque chose de plus de l'ordre d'une recherche en quatrième année. Par exemple, il y a eu ce projet autour de l'Atmos il y a quelques années, par une étudiante qui s'appelle Anna De Villers. Des outils peuvent être pris en main de manière plus créative au fur et à mesure que les élèves avancent dans leur projet.
Toujours là-dessus, d'ailleurs, ça vaut pour la formation comme pour vous, en fait, mais moi, comment dire, il y a une accélération de l'obsolescence, en fait, de ces outils, et une difficulté à trouver des standards, des outils qui soient largement partagés par tout le monde, dans une pratique commune, etc., qui soient labellisés, on va dire. Du coup, c'est difficile d'intégrer lesquels, pourquoi, etc., dans la pratique, comme dans les formations. Moi, c'est mon ressenti de mes observations, c'est qu'il y a une grande constellation de plein de choses qui se passent, mais il y a des problèmes de convergence vers des outils partagés, donc de standardisation finalement d'un outil pour une certaine tâche, etc.
J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'outils hyper standardisés. Typiquement, tous les films se font sous Pro Tools, et ça, c'est le canevas. Enfin, tu parles
je parlais de l'IA.
Effectivement. D'ailleurs, à la FEMIS, j'avais participé au cycle de conférences, du coup, l'année dernière sur l'IA, et j'ai senti que les élèves étaient globalement pas mal réfractaires à tous ces outils IA qui arrivent, parce qu'on sent que c'est une sorte de marée comme ça d'outils qui est assez informe. C'est vrai qu'on a du mal à déterminer ce qui va être intéressant, ce qui va être moins, ce qui va tuer des emplois et ce qui va permettre d'augmenter notre notre créativité. Et donc, il y avait eu pas mal de doutes aussi qui avaient été soulevés lors de ce cycle de conférences l'année dernière. Donc, j'espère que les étudiants sont plus rassurés aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr, finalement, au vu de tout ce qui se passe et de, justement, ouais, de l'explosion des outils IA maintenant. Il y en a un nouveau qui sort, en particulier pour générer des images, des sons, etc. Il y en a un nouveau qui sort tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Mais en tout cas, dans la post-production de films, et je ne veux pas parler pour vous, Cyril et Nils, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même sur une sorte d'inertie. Et les nouveaux outils, ce n'est pas à tous les films que vous intégrez 10 nouveaux plugins. C'est-à-dire que la façon de fabriquer les films n'a pas encore été bouleversée par l'IA. Aujourd'hui, j'ai l'impression.
Oui, non, effectivement. Enfin, il y a quand même une espèce de, peut-être moins en France, mais de conservatisme dans la façon dont on utilise les outils. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, dans mes templates, c'est-à-dire des sessions, on va dire, préparées, il y a des outils que j'ai depuis le début, qui n'ont pas changé malgré plein d'essais que j'ai fait pour voir s'il n'y avait pas mieux. Et d'autres, effectivement, qui arrivent un peu au fur et à mesure, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Mais en fait, ce qui est génial dans tout ça et dans cette multitude d'outils, c'est la diversité. Je pense que ce qui compte, c'est encore une fois d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Et d'avoir un mélange d'outils spécialisés en IA et d'outils traditionnels sans IA, ça doit être une panoplie et c'est très bien que ça coexiste en fait. Moi, je vois toujours pas d'outils universels pour l'instant et tant mieux quoi, parce que ce serait pas drôle sinon.
En effet. Et peut-être, alors moi, une dernière question à laquelle je tenais parce que, de poser. Alors, tu l'as évoqué, je l'ai évoqué aussi, ce procès d'authenticité et des usages de l'IA. Pourquoi, d'après toi? Et pourquoi, alors pour le coup, pourquoi on voit ça pas en particulier dans le cinéma et peut-être moins sous d'autres formes, comme en musique ou des choses comme ça?
On voit ça particulièrement dans le cinéma et c'est marrant, en ce moment, particulièrement sur le son. C'est-à-dire qu'on s'indigne beaucoup moins, par exemple, des effets spéciaux.
On ne s'est jamais indigné des images de synthèse.
Voilà, et c'est très bizarre. Et on fait un procès en authenticité, justement, sur le son, parce que, tu le disais, j'aimerais connaître la réponse, mais tu le disais, peut-être qu'il y a quelque chose de plus intime avec la voix, curieusement, que sur l'image. Peut-être qu'on est beaucoup plus éduqué en image à détecter le vrai du faux. Enfin, je pense que maintenant, c'est difficile de le reconnaître, alors qu'on s'estime vraiment floué quand tout d'un coup, il y a un son qu'on estime faux, alors que, parce qu'on n'a pas su le reconnaître et parce que ça nous a dépassé d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qui est impressionnant avec l'IA en général, c'est que je pense que ça nous a dépassé. D'ailleurs, dès qu'on cherche à limiter cet effet, à dire il faut stopper, il faut revenir en arrière, c'est déjà trop tard. Donc justement, je pense que ce qui est bien, c'est d'arriver à encadrer et de s'avouer que voilà, il va falloir faire avec et tirer parti du meilleur en évitant le pire. Et les deux, de toute façon, c'est comme les réseaux sociaux, les deux coexisteront tout le temps. C'est jamais, selon moi, je pense, et voilà. Mais c'est vrai que ça fait très peur et d'autant que sur le cinéma, encore une fois, c'est vraiment un mauvais procès parce que encore une fois, tout est faux au cinéma, vraiment tout est faux. Par exemple, sur une chanson, comme vous avez vu, alors à ce moment-là, on pourrait dire, ah mais parce que chaque chanson est un montage de plein de petits bouts de chansons, c'est une compilation en fait, c'est comme un best-of de plusieurs prises. On pourrait dire, mais non, mais c'est pas vrai, ça. La comédienne, elle n'a pas chanté tout ça d'un trait, c'est un assemblage. Et donc, on pourrait s'indigner de ça.
Je trouve ça un scandale.
Ce que je veux dire, c'est que maintenant, au début, on s'indignait d'autotune, par exemple. Maintenant, c'est devenu normal. Enfin, une grande majorité de chanteuses ou de chanteurs l'emploient. Enfin, et c'est devenu, voilà, c'est une aide, on va dire, c'est un support. Pour certains, c'est dommage, mais c'est une béquille, carrément. Mais ce que je veux dire, c'est que plus personne s'en indigne. Et maintenant, ouais, il y a un vrai sujet autour de ça. Et je pense que ça va se calmer. Mais...
Espérons. Alors, je vais remercier... On va clore cette table ronde. On va remercier nos intervenants et notre intervenante. et on peut les applaudir. Merci. Merci. À moins qu'il y ait encore une question. Oh. À moins qu'il y ait encore une question dans le public, sinon on va transiter vers la dernière table ronde de cette journée. Non, donc on peut transiter. Merci beaucoup.